Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Brunch, l'émission où on n'a pas peur de manger du popcorn. Je suis moi-même...
Entre le déjeuner et le dîner.
Entre le déjeuner et le dîner. En fait, à tout moment, le popcorn, c'est délicieux. Je suis moi-même Louis Laramé, en compagnie de mes deux co-animateurs, Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour!
Et Jim Boulay. Comment ça va, Jim?
Ça va super bien, Louis.
Yes. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre superbe semaine, vous deux, Jim? Dis-moi.
Écoute, moi, j'ai un peu l'habitude de découvrir des nouvelles séries sur Netflix parce que, bref, ça occupe ces longs jours ternes de l'hiver, qui tire à sa fin, d'ailleurs. Et ben, peut-être les geeks d'ordinateurs seront intéressés par cette série, parce que c'est pas une nouvelle série. Ça date de 2014, c'est produit par AMC, mais ça vient de débarquer sur Netflix. AMC qu'on connaît pour avoir produit, entre autres, la série Mad Men, Breaking Bad, The Walking Dead, donc des petites séries de peu d'envergure, évidemment. Non, je parle ici de la série Halt and Catch Fire, qui est en fait une histoire qui se passe dans les années 80 à Dallas, au Texas, alors qu'un charismatique ex-employé d'IBM débarque chez une petite boîte d'informatique, Cardiff Electric, et utilise toutes les manigances et tromperies possibles pour faire changer l'orientation de l'entreprise et cloner le BIOS d'un PC IBM pour éventuellement faire ce qui n'a jamais été fait, le premier ordinateur portable. Il va recruter, entre autres, un homme un peu blasé et alcoolique et ambitieux, une jeune femme trash surdouée qui joue aux arcades, mélange explosif. Ce n'est pourtant pas une comédie et c'est même assez dramatique comme série, franchement.
Mais pour l'avoir écouté la première saison avant que ça devienne sur Netflix, c'est super intéressant. Puis effectivement, oui. En tant que self-proclaimed nerd, je te l'accorde, c'est effectivement super intéressant. Puis dans la première saison, entre autres, il y a des scènes où ils sont dans le garage en train de gosser
c'est
sur
cool,
comme
là,
des consoles.
Ouais, c'est ça.
Tu te sens sur place.
Oui, 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 on se sent dans notre environnement.
Puis la musique aussi est vraiment intéressante.
Oui,
c'est vraiment bien monté. Je te dirais ça, puis Mr. Robot, ça ont été mes deux séries comme Geek Nerds de 2017, là, vraiment, qui m'ont marqué.
Bon, mais je ne suis pas rendu écouter la deuxième, mais en tout cas, ce qui est intéressant par rapport à cette série-là, Halt Catch and Fire, c'est qu'en fait, c'est basé sur l'histoire de la compagnie Compaq.
Oui.
Qu'on se souvient, ça c'est intéressant, mais évidemment c'est romancé puis c'est exagéré à fond. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté contexte un peu historique parce que bon, on a l'époque où Big Blue, IBM, monopolisait totalement le marché des ordinateurs, était considéré comme dieu tout puissant. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui aiment, comme on l'a dit, là, voir du monde souder des cartes dans un garage, puis bref, fort intéressant. C'est un bon 40 épisodes de 40 minutes, donc si vous en avez quand même pour une bonne semaine à temps plein, c'est sur Netflix.
Mm-hmm.
Et toi, Mélina, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine?
Ben moi, en fait, aujourd'hui, je veux plus vous parler de ce qui s'en vient cette semaine à la Maison du cinéma parce que c'est la semaine de relâche, donc ça concerne plus enfants, adolescents et je pense qu'à l'université aussi, il y a une semaine de relâche au cégep. Bref, je ne sais pas. Mais la Maison du cinéma offre pendant toute la semaine des films pour la relâche. Donc, c'est à partir de 4$. Ben, c'est 4$ en fait pour l'entrée. Ça commence à 10h le matin. Les films, c'est Paddington, Ferdinand, Merveilleux, Junior majeur et Le retour de Papa 2. Pour avoir vu certains de ces films-là, là, je vous recommande fortement Merveilleux. Puis voilà, une belle activité à faire pendant la semaine de relâche avec vos enfants à la Maison du cinéma.
Oui, l'endroit où je ne serai pas. Ou à tout le moins, les
pendant la période, du moins. Oui,
ouais,
c'est ça.
Oui, il risque d'avoir beaucoup d'enfants.
Oui, puis des films qui me laissent de glace assez solidement. Mais c'est pas grave, c'est des détails. Par contre, moi, ce que j'aimerais vous parler cette semaine, c'est une nouvelle bande-annonce qui vient tout juste de sortir. C'est un film qui s'en vient en mai, basé sur un roman extraordinaire de Ray Bradbury. C'est sa mère vedette Michael B. Jordan, que je viens tout juste de voir dans La Panthère noire. C'est la bande-annonce de Fahrenheit 451. Ce livre où les pompiers sont maintenant devenus des gens en charge de brûler les livres parce que la connaissance c'est dangereux. Ce livre où la société est maintenant rendue omnibilée par sa télévision, ses téléséries, ses écrans qui prennent des murs au complet, cette télévision, ses maisons inifuges et cette égalité presque dangereuse. Bref, la bande-annonce vaut la peine. Elle est absolument extraordinaire. Là. J'ai des émotions juste d'y repenser. Parce qu'effectivement, là, c'est un livre qui m'a marqué énormément quand j'étais jeune. Là. C'est un livre qui est extraordinairement parlant, spécialement dans la société où on est aujourd'hui. Il y a des enjeux surtout autour de la réalité virtuelle, de la limite entre la connaissance puis qu'est-ce qui est nécessaire pour mener une bonne vie d'être humain. Quand on repense à Vlà, je vais devenir un peu politique. Quand on repense à Vlà quelques mois, la controverse qu'il y a eu autour du DEP de Laval qui se targuait pas de philo, pas de français, pas le temps de niaiser. Mais quand on pense à quelque chose justement comme l'œuvre de Ray Bradbury ou les livres sont dangereux, je pense que c'est... T'sais,
on est quand même proche de ça, oui.
Shakespeare est décrit comme étant un des plus grands créateurs de folie que l'humanité ait connu. C'est vraiment... Non, j'ai hâte de voir. C'est Deliver HBO, c'est supposé être sorti quelque part en mai. J'ai déjà bien hâte d'aller voir ça.
Et ça n'a rien à voir avec Fahrenheit 9/11, j'imagine.
Non, vraiment pas la même veine. Et Fahrenheit 451 est plus vieux. D'ailleurs, le titre Fahrenheit 451, c'est que c'est la température exacte à laquelle le papier commence à brûler.
Oh!
C'est bien pour notre intro. Donc cette semaine, Mélina, tu as été voir un film d'origine étrangère sous-titré en français. Tu as été voir Une femme extraordinaire. Est-ce que toi-même, tu es une femme extraordinaire?
Une femme fantastique.
Shit.
Oui.
Là, j'ai l'air tweet. C'est pour ça, c'est parce que moi, sur ma playlist en ce moment, j'ai une femme, trois petits points. Fait que j'ai assumé.
Il y avait beaucoup de possibilités après le 3 petits points. Je suis surpris que ce soit fantastique.
Mais j'ai au moins été un homonyme de fantastique. Je m'étais rappelé une couple d'affaires. Fait que c'était voir Une femme fantastique.
Voilà, Une femme fantastique. En fait, c'est un film qui est en nomination aux Oscars pour film en langue étrangère. C'est un film chilien sous-titré, donc en espagnol, sous-titré en français. C'est réalisé par Sébastien Lelio. C'est sorti en 2017. Et principalement, là, l'actrice principale de ce film-là s'appelle Daniela Vega. Et je vais vous lire le résumé rapidement. Donc, c'est l'histoire de Marina, une jeune serveuse transgenre qui aspire à devenir chanteuse, qui développe une relation amoureuse avec Orlando, le propriétaire d'une imprimerie de 20 ans plus âgée qu'elle. Tous deux planifient leur avenir ensemble, mais Orlando meurt soudainement. Marina se voit contrainte d'affronter la famille d'Orlando et de se battre afin de prouver qu'elle est une femme forte, honnête et fantastique. Ça n'en dit peu, mais c'est une bonne chose, on va aller écouter la bande-annonce.
Don Orlando...
Honnêto.
Te pagaba?
Éramos pareja. Gracias, mi amor.
Se querían entonces, no era solamente sexual.
¿Por qué quieres saber eso?
No, lo que pasa es que el cuerpo del señor Honnêto llegó con golpes, con hematoma.
Donc, vous avez entendu la bande-annonce du film Une femme fantastique.
Et on n'a rien compris.
Mais moi, j'ai compris. Mais bon, travaillez votre latin, votre espagnol, voilà.
Bon. Il y avait vraiment du latin?
Non, mais okay. C'est...
L'expression...
Non, c'est bon. Je voulais juste être sûr de... J'avais compris que c'était de l'espagnol, mais là, en plus, j'ai manqué mon latin.
C'était du latin.
C'est à l'en perdre son latin.
Mais dans le fond, là, en gros, je vous ai raconté, je vous ai lu le résumé, en fait, tantôt. Mais dans le fond, c'est Monsieur Honnêto qui meurt. Et là, sa copine, qui a 20 ans de moins que lui, est une personne transgenre et... la famille de Monsieur Honnêto, c'est-à-dire son ex-femme et son fils, principalement, leurs enfants, ils l'aiment pas, principalement parce que c'est une personne transgenre qui est 20 ans plus jeune que le monsieur, et qui meurt dans des circonstances un peu bizarres, dans le sens qu'il arrive à l'hôpital couvert de bleu, parce qu'en faisant son attaque au début du film, il déboule les escaliers. Puis là, tout de suite, la police, les médecins, tout ça. Je veux pas trop divulgâcher, mais ils vont vraiment faire passer un moment difficile à Marina. Elle va être vraiment victime de plusieurs abus, préjugés. c'est un film qui est émotionnellement difficile à regarder. C'est troublant, c'est poignant, c'est un beau film. Sauf que tu sors pas de là en riant nécessairement.
On n'en sort pas indemne.
Non, c'est ça. T'en sors avec matière à réflexion parce que la violence émotionnelle qui ressort de ce film-là est vraiment très grande. Maintenant, au niveau des aspects plus techniques de ce film-là, je vous dirais que j'ai vraiment eu un très grand coup de cœur pour la photographie de ce film-là. Plus principalement, on avait des plans qui étaient super recherchés, qui avaient une composition d'image. On a joué beaucoup avec des plans centrés, donc symétriques. On allait beaucoup chercher des reflets, des plans qu'on voyait dans le miroir, à travers des lunettes. Il y avait vraiment une belle recherche qui venait vraiment bien appuyer le film en tant que tel. Donc, c'est vraiment très beau. C'était très crédible aussi. Je me suis même demandé si l'actrice n'était pas une personne transgenre, parce que vraiment, excellente actrice pour ce rôle-là.
Puis non, finalement.
Finalement, non. Du moins, pas sur ce que les internets disent. Peut-être que c'est un secret bien gardé. Bref, je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais vraiment phénoménal comme interprétation. C'est pas un film qui va te prendre par la main, qui va vous prendre par la main. C'est un film qu'il faut, qui laisse place un peu des fois à interpréter certains trucs. Mais l'immersion est là, l'identification au personnage. Bon, des fois, c'est un peu plus difficile parce que moi, par exemple, j'avais un peu de la misère à m'identifier au personnage principal. Mais au niveau des émotions, de ce qui est ressenti, ça reste quand même très touchant. Et je vous dirais sinon, au niveau des autres personnages, tout est fort, il n'y a pas de personnages qui sont parfaits, ils sont tous très humains, très forts, le rythme est intéressant, c'est très original, puis on a une fin qui est vraiment belle, d'un côté très au niveau de l'émotion, c'est une très belle fin, donc la musique aussi, j'ai une petite note à la musique qui était très belle, donc on verra demain, dimanche, si ce film va gagner le score du meilleur film en langue étrangère.
Ben, on va voir ça.
On va voir ça.
Excellent. Merci beaucoup, Mélina.
Merci.
T'as pas mentionné ta note?
J'ai pas mentionné ma note. Vous aviez bien raison, mes chers collègues.
Jim a rien à voir là-dedans. C'est juste moi.
Mon cher collègue, Louis, tu as bien raison. Et Jim, tu as bien acquiescé de la tête.
On attend toujours ta note.
À quel moment de radio extraordinaire, mesdames, messieurs?
Un peu de suspense. Non, c'est très difficile pour moi de donner une note pour ce film-là. Je vais y aller avec un 8.8 sur 10.
Bon. Oui, je comprends ce que
je
ça
fait.
Bon.
Je veux pas aller à un 8.5, c'est mieux qu'un 8.5, mais c'est ça, c'est pas un 9.
Excellent.
Bon.
C'est une poule.
Hey! Merci beaucoup, Mélina, pour cette extraordinaire critique.
Moi, et blague.
Et humour sans voilà. Pareil. Puis voilà. Des fois, être différent, c'est pas nécessairement une bonne chose. c'est tout ce que je vais dire là-dessus. Moi, je ne suis pas allé voir un film qui va gagner des Oscars. Je n'ai pas été allé voir un film qui m'a touché. Je n'ai pas été voir un film coup de poing. J'ai été voir un film qui, finalement, ben, était un film, mais était une très bonne comédie avec Jason Bateman et Rachel McAdams dans les rôles principaux de Max et Annie. J'ai été voir Nuit de jeu, Game Nights, qui est finalement l'histoire d'un couple super compétitif. Là, on les voit, leur histoire de rencontre, c'était dans un trivia night, dans un bar, où est-ce que le type Max finit les réponses avant que l'animateur finisse de poser des questions. Oh. Et que, comme Annie, sa partenaire, comme essayent de finir et finalement finissent les deux en même temps une question de l'animateur et donnent la réponse et s'embrassent et se ramassent et on les voit comme plus tard dans un couple heureux qui organise régulièrement des soirées de jeu encore aujourd'hui avec leurs amis Puis là, on les trouve le soir où est-ce que le frère de Max, Brooks, joué par Kyle Chandler, débarque en ville, puis il décide d'amener une variante aux soirées de jeux traditionnels. Et plutôt que de faire le Life ou Monopoly ou autre, il décide d'engager une firme qui stage des kidnappings sur place avec des acteurs et toute la patente. Ça tourne au vinaigre quand on réalise que finalement le plan a été hijacked par une gang de vrais kidnappeurs ou à tout le moins.
Oh.
C'est ça, c'est comme ça que c'est présenté. Je vais vous mettre la bande-annonce juste pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance de où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire-là, puis je vous fais ma critique tout de suite après.
Ce soir, notre soirée jeu va monter en puissance.
À l'ombre. Mm.
À un moment, quelqu'un dans cette pièce se fera enlever, et les autres devront le retrouver.
C'est une murder party et on mène l'enquête.
Celui qui retrouve la victime gagne le premier prix de la soirée jeu. Vous ne saurez pas si vous êtes dans la fiction ou la réalité.
Ça va pas ou quoi? Vous pouvez pas entrer comme ça!
Ça fait tellement vrai!
Arrête de bouger, collègue! Aidez-moi, c'est pas du...
Oh là là, mais goûtez-moi ce fromage, je vous jure, c'est une tuerie!
Bon, le premier qui nous suit, je lui colle une balle!
Ok, bien reçu, soyez prudents sur la route, hein.
La fin fait très sérieuse.
Ce fromage est une tuerie.
Je l'avais pas compris. C'est encore plus drôle.
Ce fromage est une tuerie.
Mais j'ai vu la bande-annonce puis on les voit déguster une assiette de fromage, mais j'avais pas compris la blague.
La version anglophone est encore plus. Oui. C'est juste parfait comme this cheese is to die for. Ben alors que le type est en train de, on comprend, se faire kidnapper par des vrais kidnappeurs. Honnêtement, je rentrais là à reculons. Ça me tentait pas d'aller voir ce film-là. Le film que je voulais aller voir est disponible seulement en version française cette semaine, ce qui m'a mis mécontent. Je fais des gros yeux à la maison du cinéma dans ce temps-là, mais ils me regardent pas. Fait que ça se passe pas.
Mais à la radio, mais, c'est dur aussi.
Mais ça, je suis forcé, hein, parce qu'on s'entend que j'ai une face de radio à la base. On va laisser ça de même, OK?
Oui, okay. Restons-en là, lui.
C'est bon. j'ai aussi une fesse de radio, mais ça... Bref, j'ai été voir Game Nights.
Assis-toi pas dessus, en tout cas.
Non, trop tard. J'ai été voir Game Nights à reculons, parce que les comédies, habituellement, ça fait rien pour moi. Sauf que là, vraiment, j'ai eu un plaisir fou. Je pense que j'ai eu plusieurs moments parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ce qui est pas mentionné dans la bande-annonce, c'est l'espèce de voisin policier vraiment creepy qui a participé autrefois au Game Nights avec son ex-femme, Debbie, mais depuis qu'il n'est plus avec, il l'invite plus parce qu'il est vraiment juste louche. On le voit toujours avec son petit Calvins de Poméranien, blanc, au bras, dans son uniforme de policier. Il a l'air de version défaite de Matt Damon, l'acteur qu'il joue. Bref, un rôle excellent. Écoute, puis j'ai un peu insinué quand j'ai commencé la présentation du film, c'est pas un film qui réinvente quoi que ce soit. Il n'y a pas de moment où j'ai fait « Oh mon Dieu, je pense que le cinéma devrait arrêter là puis on recommence avec cette bonne information dans la tête. » Il n'y a aucun moment où j'ai fait cette performance vaut un Oscar. Mais à plusieurs moments, j'ai fait sans me retenir. Parce que
la salle te permettait de faire ça.
Mais j'étais tout seul. C'est ça. Aussi ça le désavantage d'aller voir les films tard la nuit. Mais non, c'était vraiment c'était très drôle. Il y a plusieurs moments. Rachel McAdams, qui est à plusieurs reprises mise en vedette dans certaines scènes, est juste extraordinaire. Il y a plusieurs scènes qui l'incluent. Il y a toute une histoire autour du fait qu'il y a une rivalité entre les deux frères, entre Kyle et Max. Max qui est tellement stressé par cette rivalité-là qu'il n'est pas capable de concevoir avec sa femme.
Concevoir.
Ça commence en fait sur une scène chez le médecin.
De conception.
Où est-ce que... Non. Ah. Chez le médecin. Chez le médecin. Une infertilité. Où est-ce que la motricité de son sperme ne serait pas suffisante parce que trop stressé. On découvre des secrets sur la vie de son frère qui lui permettent finalement de découvrir que peut-être que c'est pas lui le meilleur des deux dans la famille. Mais... je vais arrêter ça là parce que je veux pas non plus divulgacher. Il y a plusieurs retournements intéressants de situation dans ce film-là. Il y a quelques scènes d'action qui m'ont fait arriver sur le bord de ma chaise. Au total, je vais accepter de le donner le 8 sur 10. Parce que, comme j'ai dit, ça réinvente rien. On ne redécouvre pas quoi que ce soit. Mais les choses que ça fait, ça le fait bien. C'est pas trop ambitieux. Donc, il y a aucun moment où on fait « Ouh, t'aurais peut-être dû te calmer les nerfs. » Au contraire, je pense qu'il y a certaines scènes qui sont jouées un peu basses, qui sont jouées un peu smooth, alors qu'elles auraient pu être un petit peu plus tune-in. Mais en même temps, cette prudence fait qu'il n'y a aucune scène qui clash. Il n'y a aucun moment où est-ce qu'on est particulièrement déçu. Fait qu'un solide de 8 pour Nuit de jeu.
Eh bien...
c'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti avec mes chums.
Les sorties cette semaine pour le cinéma, c'est une petite semaine, je vous dirais, qui s'en vient. On a Chien de garde, qui est un film québécois. Mais non, ça a l'air vraiment plus relax que ça. C'est réalisé par Sophie Dupuis, que je ne connais pas, et qui est son premier film long-métrage. C'est JP qui vit avec son frère Vincent, sa mère Jo et sa copine Mel dans un petit appartement de Verdun. En partant, déjà, ça part bien, puisque Verdun Love, hashtag, constamment sur la corde raide, JP tente de conserver un équilibre entre les nombreux besoins de sa famille, de qui il se sent responsable, son travail de collecteur qu'il fait avec son frère et ses fonctions dans le petit cartel de drogue de son oncle Danny, qu'il considère comme un père.
Son cartel de drogue, c'est ça que t'as dit?
Oui, pas son cartable de drogue, ça c'est autre chose.
Sacré Verdun!
Sacré Verdun!
Il se passe toutes sortes de choses là-bas.
Sa job de collecteur, c'est collecteur de dette, là. T'sais, c'est pas... ce garçon est un vilain garnement.
On parle bien de Verdun à Montréal. Là.
Oui, pas Verdun, la bataille Napoléon. Non, c'est aussi. Pas... c'est, peut-être Napoléon. Qu'il va vivre son Verdun. C'est pas clair. Ah, oui, non.
Première guerre mondiale, vraiment.
peut-être. Maintenant ouais. Que t'en parles.
Ouais.
On a... Les Inconnus, Proie Nocturne. Ah oui, OK. C'est une famille qui passe la nuit dans un camping, mais très vite, trois psychopathes masqués viennent leur rendre visite. Point. Ça, c'est la description.
J'aime ça, moi,
ça
des
peut tout être, ce film-là. Ça peut être un film d'horreur, ça peut être une comédie,
c'est
ça
un
peut
film
être
d'horreur.
Tout.
C'est un film d'horreur. Là, j'ai fait une erreur parce que...
Une horreur?
J'étais supposé vous donner aussi le nom anglais d'origine de ce film-là, parce que ça avait l'air... c'est The Strangers Prey at Night. Une proie à la nuit. Écoute, j'ai essayé de me renseigner, j'ai voulu savoir c'est quoi. Je connais pas le directeur, je connais personne qui joue là-dedans. C'est une suite d'un film qui s'appelait Les Inconnus, point, qui s'appelait Strangers, point. C'était une histoire d'horreur, l'ambiance est lourde dans la maison de famille isolée où James et sa compagne, Kristen, séjournent. Et pour cause, cette dernière vient de rejeter la demande en mariage du jeune homme. Alors qu'un processus de réconciliation se met timidement en branle, quelqu'un frappe violemment à la porte. Une jeune femme, dont le visage demeure caché dans le noir, demande à parler à une certaine Tamara. C'est le début d'une nuit cauchemardesque pour Kristen et James, qui tentent par tous les moyens d'empêcher un homme et deux femmes masqués et solidement armés de pénétrer dans la maison.
Un ça, homme et le... deux femmes armées?
Je sais pas pourquoi c'est spécifié de même, je sais pas, tu sais, j'ai aucune idée. Honnêtement, je lis ça, j'ai vu la bande-annonce, puis je comprenais pas plus rien. Ça a l'air d'un film. C'est ça. J'ai pas voulu me renseigner trop.
Non, mais tu fais bien, je pense. Non, mais...
Ouais.
Je suis pas convaincu.
Moi, je te dis, je suis pas convaincu.
C'est ça.
On a aussi un raccourci dans le temps, A Wrinkle in Time, qui est une aventure épique basée sur le classique de Madeleine L'Angle, qui est un film de fantastique qui transporte l'auditoire à travers les dimensions du temps et de l'espace, examinant la nature de la noirceur versus la lumière et, ultimement, le triomphe de l'amour.
Oh.
Sa mère vedette, Oprah Winfrey, Chris Pine, Reese Witherspoon, ouais. Zach Galifianakis, Michael Peña, et shit, je vais maganer ce nom-là, Gugu Mbatha-Raw, et Rowan Blanchard.
Attends un peu, Chris Pine, puis
Oprah.
Oprah. Moi, je pense qu'elle ferait un excellent Star Trek avec Uhura dans le rôle, avec Chris Pine dans le rôle de William de... Oui?
Oui, il y a aussi, ben, c'est parce qu'il y a aussi Michael Peña, que je trouve très drôle, puis Zach Galifianakis, qui, tu sais, si j'avais la chance de le rencontrer, j'aimerais ça y serrer la main. Fait que, tu sais, ça a l'air de rien, mais peut-être que ça va l'être. Le dernier, je dois admettre, j'ai vu la bande-annonce pour la première fois au cinéma en allant voir mon film. Je le savais pas c'était quoi, hein. Je connaissais pas. La description est de la scrap.
Celui que tu nous parles.
C'est ça. C'est un film qui s'appelle Pur Sang, qui est la version en française de Thoroughbred. Deux adolescents d'une banlieue aisée du Connecticut se retrouvent après plusieurs années loin l'une de l'autre. Ensemble, ils élaborent un plan pour résoudre leurs problèmes, peu importe ce qu'il en coûtera. Ça, c'est poche comme description, parce que la bande-annonce, je sais pas si ça a été la regarder quand je l'ai envoyée, c'est un truc super intéressant à propos d'une jeune fille qui ne ressent aucune émotion, puis qui décrit super cliniquement comment est-ce qu'elle est capable de simuler les émotions des autres. On la voit à un certain point faire « Oh, cette actrice est en train d'utiliser le truc ». Son ami se retourne, le truc, et elle fait exactement l'espèce de respire rapide avec la larme qui coule sur le bord de la joue. Fait que c'est... Puis il y a un délire dog au travers ça, il y a une histoire d'arme à feu. Ça a l'air vraiment funky, il y a des très bonnes chances que c'est le film que je vais aller voir.
Bon, ben...
Ça, c'est le film avec Oprah.
Non, ça c'est un autre film.
Ah, ok.
Ça, c'est...
Mais je me demandais aussi parce que je comprenais plus.
Le film avec Oprah, c'est Un raccourci dans le temps, okay. qui est un film fantastique à propos de l'amour, la lumière versus la noirceur et le triomphe de l'amour. Pur sang, c'est deux adolescentes du Connecticut.
C'est un film d'ado, autrement dit.
Oui, mais non.
Non.
C'est qu'en tout cas, ça a l'air d'être des adolescents plus funky que ce que j'ai connu moi dans mon adolescence. Ce serait la fin pour nos sorties cinéma. Fait que j'ai bien hâte qu'on aille tous voir ça la semaine prochaine.
Wouhou!
Bienvenue de retour à Cinébrunch. Nous allons parler cet après-midi de les Oscars. Mais avant tout, Jim, nous allons commencer par t'entendre parler du film que tu as été voir, Les Gardiennes, qui est un film français qui a l'air quand même très intéressant.
Oui, effectivement, j'ai été voir donc le film Les Gardiennes, un film franco-suisse, écrit et réalisé par Xavier Beauvois, l'homme derrière La Rançon de la Gloire et Des Hommes et des Dieux. C'est avec Nathalie Baye, Laura Smet et Iris Brie, une toute nouvelle découverte. L'histoire est basée sur le roman éponyme d'Ernest Perrochon. Voici la bande-annonce.
On part pour une guerre éclair et depuis deux ans, on vit l'enfer.
Et toi, maman, tu fatigues moins ?
Maintenant que j'ai la petite, ça va mieux. Même quand la guerre sera finie, on te gardera, ma fille.
Les Gardiennes, ça nous met dans l'ambiance de la Première Guerre mondiale en France.
Je t'arrête juste à l'instant, Jim.
Oui.
Ça sonne éminemment palpitant, cette histoire-là.
Écoute, oui et non. D'entrée de jeu, non.
D'entrée de jeu, mais... non. Pour un film de guerre, je pense pas qu'on
mais
va
c'est
se...
Ça, c'est pas vraiment un film de guerre, c'est un film de pendant la guerre. Tu sais, c'est un film de ne pas être à l'action quand il y en a.
C'est un film de guerre, mais c'est pas hyper masculin, finalement.
Ben,
comme...
non, effectivement. Enfin, le casting est extrêmement féminin, évidemment, parce que justement, ça nous met dans cette ambiance-là de la Première Guerre mondiale en France. Et on se souvient que la Première Guerre mondiale est marquée principalement par le fait que tous les hommes en âge de combattre vont au front. Donc, ça laisse des villages, des villes remplies d'une immense majorité de femmes seules. Donc, ce film-là va explorer énormément ce phénomène-là. Plus précisément, à la campagne, alors Cortance, une vieille dame un peu austère, mais honnête, se retrouve à s'occuper de la ferme familiale sans ses fils, qui sont partis au combat. Elle engage une jeune orpheline, Francine, qui se trouve à être parfaite dans tous les domaines. Elle est travaillante, habile et se comporte bien. Iris Brie, qui joue Francine, explose littéralement l'écran par son jeu et le réalisme de son personnage. C'est vraiment une révélation. Et fait intéressant, c'est son premier film à vie. Elle n'appliquait même pas pour le rôle. La jeune femme sortait d'une librairie quand la directrice du casting du film l'a approchée pour lui demander si elle voulait faire des essais. Le résultat est excellent. Le film nous fait véritablement vivre le deuil, l'attente interminable des femmes pour qui leur mari ou leur fils sont au combat, la peur de voir arriver le messager de la mauvaise nouvelle et toujours l'espoir de la fin du conflit qui, on l'a entendu dans la bande-annonce, il dure un peu plus longtemps qu'on pensait. Donc, le film débute en 1915, se déroule tout au long de la guerre et même un peu après. Je ne vous cacherai pas, il y a une histoire d'amour dans tout ça. Sans tomber dans la misère noire, on veut vraiment nous faire vivre la vie de l'époque, les rapports entre les gens, mais surtout le dur labeur que représente la vie rurale des années 10. Il faut se rappeler qu'on travaille encore avec des chevaux, des bœufs, des roues en bois. Donc, ce film-là est visuellement très, très beau. Les couleurs sont très ternes, mais c'est un peu nécessaire pour nous faire vivre ce qui se passe. Les plans sont beaux, symétriques, une énorme attention aux détails. Au niveau des bâtiments et des décors, c'est tout à fait sublime. On observe ça comme si on se retrouvait vraiment à cette époque-là. Le seul gros hic de ce film-là, c'est très long. Franchement, on s'accroche pour un bon 2h15 là, avec très peu de dialogue. Donc, beaucoup de plans où on voit des gens travailler, répéter des mouvements, suer, attendre, s'occuper des animaux, bon, etc. J'ai jamais entendu autant soupirer dans une salle de cinéma, je vous jure, là. Et c'est vraiment très dommage, parce que c'est un très bon film. C'est vrai que les plans sont souvent très longs, on voit quelqu'un entrer dans le cadre et marcher jusqu'à ce qu'il sorte du cadre, mais ça peut prendre 15-20 secondes, c'est super long pour un plan. Le film se fout pas mal de mettre de l'action ou du suspense. C'est pas son but. On veut reproduire et nous faire vivre la réalité de l'époque dans une dimension très peu connue, voire presque jamais exploitée au cinéma de cette façon-là. Ça marche totalement. Ça nous donne un recul sur ce qu'on vit aujourd'hui. Et me semble que nos problèmes ont l'air un peu moins pires quand on les regarde aller, parce que franchement, c'est pas joyeux. Donc, est-ce que la bande-annonce ou le synopsis a attiré le mauvais public? Peut-être, parce que la salle était pratiquement pleine et je suis pas allé à une heure si intéressante, là, franchement. Mais bon, je sais pas exactement pourquoi, là.
Je sais pas si c'est le synopsis, mais j'ai vu la bande-annonce à quelques reprises, puis ça avait l'air de exactement ce que t'es en train d'écrire, là. Je t'sais, je pense pas que la bande-annonce a menti à personne. Effectivement, ça avait l'air de quelque chose de super posé, de super contemplatif, là. Ça avait pas l'air, justement, de Faut sauver le soldat Ryan, ou ça avait pas l'air de Dunkirk.
C'est bon. C'est l'inverse de Dunkirk. Ouais, c'est fait, ça, c'est totalement l'opposé.
Mais c'est l'autre côté de la médaille des films de guerre qu'on voit habituellement. Là. C'est justement de voir les autres, ceux qui sont encore ouais. ici.
Mais c'est intéressant parce que c'est écrit du point de vue de l'auteur du livre qui a été adapté dans le film. A fait la guerre 14-18. Donc, c'est son point de vue de cette époque-là, alors que lui était au combat. Donc, ça c'est intéressant quand même. Et bon, il écrit d'autres choses, ce monsieur, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, je sais pas si c'est l'abondance ou quoi, mais définitivement, là, je pense que le public a été déçu dans la salle. C'est mon impression, personnellement. C'est un très, très beau film, mais je pense que si tu vas pas là pour, disons, vivre ça... ben tu vas t'ennuyer puis assez rapidement là. Ça, franchement là, définitivement, parce que bon, je pense pas qu'il aurait pu attirer le public en disant bon, mon film dure 2h15 puis c'est super long puis il se passe pas grand chose. Non, tu sais, fallait attirer avec quelque chose. Je pense que la bande annonce avait l'air d'un peu d'une bande annonce d'un film de Pagnol, ben d'une histoire de Pagnol, un truc un peu comme ça, un peu plus romantique, sans non plus le montrer, en tout cas, bref.
Et pourtant Hochelaga était ça comme film, puis on a tous été le voir, hein.
Mais il y a déjà plus d'action dans la bande-annonce de Schlaga. Là.
Et Calvin.
Il y avait des joueurs de football déjà.
Ouais, déjà, c'est vrai.
Bref, une autre histoire. Donc, c'est un film. C'est un des films.
C'est au moins un film.
Mais c'est l'un des films les mieux faits que j'ai vu cette année. Je vais être plus généreux que la critique populaire et je vais donner 8 sur 10 au film Les Gardiennes. Il aurait pu avoir un peu plus, mais je me confesse, j'ai regardé l'heure à un moment donné dans le film, ce qui n'est pas un très bon signe normalement. Sinon, on tombe en amour avec le personnage de Francine, et juste pour la découvrir, Iris Brie, ça vaut la peine. On reverra cette femme au cinéma, j'en suis absolument certain, c'est un talent rare qui mérite Oscar ou Cannes ou autre, mais qui mérite quelque chose. Les frères Dardenne doivent se mordre les lèvres même de ne pas l'avoir découvert avant Xavier Beauvois. Et cela dit, ce film sera-t-il à Cannes? La grande question. En décembre 2017, Xavier Beauvois a dit au journal Paris Match qu'il ne mettrait pas les pieds à Cannes tant que le délégué général Thierry Frémaux n'y serait. Et a traité les membres du jury de groupe d'obscurs de je ne sais quoi. Donc, à suivre.
Un certain conflit ici.
Quelqu'un qui sait se faire des amis dans le milieu.
Oui, définitivement.
Voilà.
Excellent, merci beaucoup, Jim. Fait que c'est une semaine, finalement, de 8. Parce qu'on a 8.5, 8.8, 8 sur 10. Excellent. Mélina, tu vas nous parler aujourd'hui des Oscars. Tu nous fais un topo sur cette célébration extraordinaire. Qu'as-tu à nous dire?
Ben oui, écoute, parce que pour ceux qui ne le savent pas, demain, dimanche, ça m'a fait penser à la chanson Demain, dimanche. Bon, demain, dimanche, je sais.
Demain matin, dimanche matin, c'est ça?
Ah oui, sinon c'était Demain, Montréal, matin. C'était l'autre qui me venait en tête à ce moment-là.
Oui, bon.
Bref, demain, dimanche,
mais tout ça ne sont que des paroles.
Oh boy! OK, les références à la chanson.
Hey, c'est du beau chant.
Oh wow!
J'ai brisé Jim. OK.
Bon.
OK, Jim. OK.
Donc, demain dimanche, c'est la cérémonie des Oscars. Donc, je vous ai préparé un petit segment sur les choses à savoir si vous voulez impressionner vos collègues de bureau, vos amis, votre famille ou, voilà, vos voisins, je sais pas, peu importe. Donc, cette année, l'animateur sera Jimmy Kimmel. Et en fait, on va y aller d'entrée de jeu. Les Oscars ou Academy Awards récompensent le cinéma. Donc, oui, c'est principalement une célébration du cinéma américain, même si la compétition est ouverte à tous les films tant qu'ils ont été distribués l'année précédente dans le comté de Los Angeles. Mais c'est vraiment une célébration hollywoodienne du cinéma. Donc, pour les Oscars de 2018, il s'agit de tous les films qui ont été distribués en 2017. Et il faut savoir que c'est la plus ancienne récompense dans le domaine des médias et du spectacle, parce que ça a été créé en 1929, et on est donc rendu cette année à la 90e cérémonie. Et comme c'est une très grande cérémonie regardée par plusieurs personnes, les gens qui participent décident généralement de se mettre sur leur 31, de s'habiller propre. Donc, il y a des personnes qui analysent et qui vont commenter les différents habits portés par ces dites personnes sur le fameux tapis rouge. Et on voit ensuite plein de photos dans les magazines à potins.
Mais là, tu dis, en 1929, les gens se mettaient sur leur 31.
Non, non, je parle de comprendre, maintenant. Mais... Maintenant, bon, okay. Les gens, ils vont s'habiller... C'est pas tant la façon qu'ils vont s'habiller, c'est juste qu'il va y avoir des gens qui vont analyser comment ces gens-là vont être habillés.
On peut-tu s'entendre, c'est extrêmement superficiel comme au niveau vestimentaire?
Ben oui.
Ben, juste avoir la controverse en ce moment qu'il y a autour de la robe de...
Les steaks, là.
Hein?
C'est pas là qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé avec une robe en steak. Là.
Ça, c'était Lady Gaga, ça fait déjà quelques années de ça, Jim.
Ça devait pas être aux Oscars.
peut-être que c'était aux Oscars, je suis vraiment pas sûr. Non.
Lady Gaga, elle chante.
Ouais, c'est ça. Les Grammys, en tout cas.
Bon. Ah, peu importe. Revenons à nos Oscars. Les Oscars sont organisés par l'Academy of Motion Pictures, Arts and Science. Et vous avez sûrement déjà entendu parler des Academy Awards. Ben, c'est la même chose. En fait, c'est le nom original de la récompense. Et les Oscars, c'est le surnom qui a été donné au trophée. Et pourquoi? Il y a en fait plusieurs histoires. Mais une des plus populaires raconte que Margaret Herrick, qui était la secrétaire exécutive de l'Academy, aurait affirmé que la statuette ressemblait à son oncle Oscar. Bref, ça a été adopté dans la culture populaire et les Academy Awards ont officiellement renommé le trophée Oscar en 1939. Donc, il y a plusieurs catégories de récompenses. Je vais vous en nommer rapidement. Je vais vous les nommer rapidement. Donc, on a meilleur film, réalisateur, acteur, actrice, acteur dans un second rôle, actrice dans un second rôle, scénario original, scénario adapté, décor, création de costumes, maquillage et coiffure, photographie, montage, mixage de son, effets visuels, chansons originales, musique de film, film en langue étrangère, film d'animation, film documentaire, court-métrage de fiction, court-métrage d'animation et court-métrage documentaire. Et en plus de ça, il y a des Oscars spéciaux qui sont remis lors d'une cérémonie spéciale, les Governors Awards, et il y a les Oscars scientifiques et techniques qui sont généralement remis lors d'une cérémonie non télévisée, juste avant la cérémonie principale. Maintenant qu'on a parlé un peu de c'était quoi les catégories, on va y aller brièvement sur le processus de vote, parce que généralement, pour remettre un prix à quelqu'un, il faut qu'il y ait des gens qui votent. C'est un peu le principe.
Oui. Parce qu'il y a une nomination, puis ensuite, il y a les gagnants.
C'est ça, exactement. Donc, il faut savoir que l'Académie des arts et des sciences du cinéma compte plus de 6000 membres et représentants qui possèdent le droit de vote. Et c'est tous des membres liés à l'industrie du cinéma. Et il y a différents, ce qu'on appelle des collèges professionnels de votants, et ils sont au nombre de 17. Donc, il y a les comédiens, il y a les compositeurs, il y a les créateurs de costumes, bref, tous les corps de métier peuvent voter, en fait. Et si on veut devenir membre, en fait, on ne peut pas juste devenir membre comme ça, il faut recevoir le parrainage d'au moins 2 adhérents de notre branche de métier et l'aval du Conseil des gouverneurs de l'Académie. Et les invitations sont lancées après, après l'évaluation d'une contribution majeure au monde du cinéma. Et généralement, les personnes qui ont déjà gagné un Oscar sont généralement admises de manière automatique dans ces collèges-là votants. Donc, ils choisissent en fait des candidats dans la catégorie des Oscars liés à leur branche professionnelle. Donc, les comédiens vont choisir meilleur acteur-actrice, bref, réalisateur, meilleur réalisateur, décorateur, meilleur décor. Et tous vont proposer 10 titres pour l'Oscar du meilleur film. Et une fois ces nominations établies, Les lauréats sont désignés dans toutes les catégories par un second tour de vote au scrutin auquel participe la totalité des membres sans distinction professionnelle. Donc, maintenant qu'on sait ça...
C'est de là d'où vient l'expression « faut pas rester assis sur ses lauréats ».
Sans commentaire.
OK, calme. On brime ma créativité.
Voilà. Donc, pour cette année, en fait, on va parler rapidement des films à surveiller. On a notamment, je pense qu'on a vu les trois, le film La Forme de l'eau. Louis, je sais pas si tu l'as vu.
Non, j'ai pas été voir finalement La Forme de l'eau.
Tu l'as pas vu? Bon.
J'attends qu'il sorte en DVD.
C'est bien.
Ah, sacré Louis, t'es tellement vintage.
Ben, c'est parce que mon ordinateur lit pas les Blu-ray. C'est vraiment juste pour ça. Ouais, ben, en tout cas.
Ouais, bon.
Bon. Et, bon, ben, bref, La Forme de l'eau est le grand nominé, si je peux dire, parce qu'il y a 13 nominations, suivi de Dunkirk, que vous avez vu les deux ensemble, qui est nominé dans 8 catégories.
Oh, quand même, hein? C'est pas surprenant, c'est pas surprenant.
Non, non, il y a vraiment beaucoup de belles choses dans ce film.
Alors, moi, j'ai un petit « saviez-vous que » de fait surprenant, ou peut-être que vous le savez, parce que vous êtes des gens tellement culturés, comme on dit.
Oui.
Donc, la première cérémonie, en 1929, a duré seulement 10 minutes et le billet ne coûtait que quelques dollars. Et
ça a bien changé, hein?
Oui.
À cette heure, ça prend des heures juste passer sur le tapis rouge. Ouais. Tu sais, c'est pas...
C'est vrai.
C'est cela. Ouais. Il y a aussi, saviez-vous qu'il y avait un champagne spécial créé pour la 90e cérémonie de demain?
C'est quand même drôle parce que le champagne est fait en France. Donc,
va non savoir.
Ben, il y a des champagnes qui sont faites en Amérique suite à l'importation de terres de champagne et qui ont pu garder l'appellation parce que c'est dans le sol. Oh, oui. L'appellation contrôlée et que si...
C'est surprenant quand même.
Non, c'est... Oui, oui, mais...
C'est une belle façon d'amener... de garder le... De pouvoir garder le titre...
L'appellation contrôlée.
Ouais. Ben, c'est bien pensé. Ouais. Ça veut dire que si je déménage un petit bout de terre, moi, d'Italie, je pourrais considérer que...
Ouais, mais tu vois, justement, parce que ça a déjà été fait, à cette heure, c'est vraiment contrôlé. C'est comment est-ce que tu peux transporter cette terre-là, puis...
Déjà, on peut pas amener de fruits et légumes aux États-Unis. J'imagine pas que... Bon.
Ouais, que ton truc de garnottes va se rendre très, très loin.
sinon, un dernier, saviez-vous que... parce que une question qu'on se pose tous... Qu'est-ce que les gens font avec leur trophée quand ils décèdent, en fait? Et en fait, il faut savoir qu'il y a un accord que les gagnants doivent signer et qui les engage à ne pas revendre le trophée avant de l'avoir préalablement proposé contre $1 à l'AMPAS, donc à l'Académie.
Cette réglementation-là n'a pas été modifiée depuis 1929, parce qu'un $1, c'est peu quand même.
Depuis très longtemps, mais c'est un $1 symbolique, en fait.
Ah, okay.
C'est comme quand tu vends une auto à la SAQ pour $1.
Okay. Autrement dit, je veux bien comprendre, soit, j'ai mon Oscar, là, soit je vends mon Oscar pour $1 à l'organisation, ou je le vends des milliers de dollars sur eBay.
Non, c'est ça, en fait, c'est que t'as pas le choix, en premier lieu, de le proposer à l'Académie pour $1.
Ah, OK. Fait qu'évidemment, ils vont dire oui.
C'est pour éviter, parce que, en fait, dans les premières années, c'est ça exactement, il y a des gens qui vendaient les trophées pour financer des films ou simplement parce qu'ils étaient en manque, j'imagine, de...
Mais qu'est-ce qui arrive si tu fais fondre ton trophée avant de le vendre? Ça compte-tu à ce moment-là?
Non, mais là, je sais pas, faudrait consulter un avocat et je ne parle pas du fruit.
C'est un fruit ou c'est un légume? J'en mets sur mes toasts.
C'est un fruit.
Excellent.
Donc, vous souvenez-vous, l'année passée, est-ce que vous aviez regardé un peu la cérémonie?
Non.
Nope.
Parce qu'il y avait eu un bel imbroglio. Oui, oui.
Le film qui n'a pas été nommé.
Ah, ils se sont trompés de nom.
Exactement,
c'est ça.
Ils se sont trompés de nom.
Ah oui, je me souviens.
Parce qu'il y a eu une confusion, parce que sur la carte, c'était écrit Emma Stone. Et là, la personne qui regardait la carte était comme, pourquoi Emma Stone, je décerné un prix à un film, et l'autre personne a dit, bon, ben, c'est La La Land. Puis là, finalement, c'était pas La La Land. Donc,
ouais.
C'est ça. C'était très drôle. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer demain, si on aura d'autres...
Oui, on m'a dit que c'était TQS, c'était VTL qui allait faire la cérémonie, donc...
C'était Télé Métropole qui allait faire la cérémonie.
On va voir comment ça va se passer.
Télé 4 saisons.
Ben oui! OK, bon. On va tous les faire, là, tant qu'elle va commencer.
Puis sinon, une dernière chose que j'ai appris... c'est que les plaques des trophées ne sont pas gravées tout de suite pour éviter qu'il y ait des fuites dans les médias. Donc, quand ils remettent les trophées, la plaque est vierge. Et auparavant, on exigeait des candidats qu'ils remettent leurs trophées après la cérémonie pour que l'Académie le fasse graver et qu'ensuite, elle leur renvoie maintenant au party privé après les Oscars. Il y a une personne qui est sur place pour faire pour graver, en fait, votre trophée si vous avez gagné.
Wow!
J'aime ça comment est-ce que quand Mélina parle d'un sujet américain, elle devient international dans son vocabulaire.
Je me prépare pour quand je vais gagner mon Oscar.
Mm-hmm. Ton Oscar du meilleur court-métrage étranger de...
Du meilleur accent.
C'est l'Oscar Lopez.
Oh, hey, après ça, on a mon sens de l'humour dans le coin. Jim,
excusez-moi.
Donc, bref, on peut suivre ça demain. Les Oscars, les Academy Awards, le cinéma, la célébration du cinéma américain sous toutes ses formes et ses couleurs.
Carré, rond, losange, toutes ces formes bleues, orange, vert, turquoise, toutes ces couleurs.
Merci Louis d'avoir nommé toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Non, il m'en manque une coupe, jaune, orange.
Non, je pense que c'est ça, c'est trois couleurs l'arc-en-ciel, c'est ce que j'ai appris moi à l'école.
Est-ce que... Mélina, je pense qu'il va falloir qu'on t'apprenne que t'es daltonienne. Bon, sur ces belles paroles, merci beaucoup Mélina pour ton travail extraordinaire sur les Oscars. c'est une chronique sans pareil que tu viens de nous servir.
Oui, oui. J'espère que ça vous a éclairé sur la fameuse cérémonie de demain.
Non, je pense qu'il va falloir attendre un an avant d'avoir la suite.
La suite?
Ben, la prochaine chronique de Mélina
sur les Oscars. Oui. Ben, on pourrait peut-être faire une chronique sur les Oscars, mais sur les scandales des Oscars. Ah, entre autres, hashtag OscarSoWhite.
Ben, peut-être la semaine prochaine?
La semaine prochaine, on a une critique commune de Charlotte a du fun qu'on vous révèle en exclusivité en ce moment.
C'est pas le Yeti?
Faut que tu lises ton planning, chérie.
C'est Charlotte a du fun parce que Louis se cherchait une excuse pour aller voir ce film-là.
Ça a vraiment l'air intéressant, mais pas bon en même temps.
Moi, je pense qu'on va avoir du fun à voir ça, Louis.
Je ne m'appelle pas Charlotte, fait que c'est pas garanti.
Bon, on verra bien.
Ce serait donc, mesdames et messieurs, la fin de cet épisode extraordinaire de Ciné Brunch. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à écouter cet épisode extraordinaire. Encore une fois, une salutation de mes deux collègues, Jim.
Hey!
Et Mélina.
Bonjour!
Oh, ça aurait pu être un au revoir, tu sais. Il me semble que vous manquez un peu dans
ce sens. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère.
Qu'un au revoir, mes frères. Voilà. Mes frères. Excellent. Fait que, on se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas à aller liker notre page Facebook, d'aller suivre notre podcast sur iTunes, RZO, Google Play, et de nous envoyer vos commentaires, vos lettres d'amour et vos fanales. Bonne semaine!